Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Aliette Ovine, Cédric Fuentes, Louis Drillon, Arjuna Andrade et Isul Sicard. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Jean Frédérics.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Deuxième épisode de notre série consacrée à l'économie du temps libre et des loisirs. Après l'histoire des cités balnéaires, hier, ce sont les goûts et les pratiques culturelles que nous allons explorer aujourd'hui. En 1979, dans La Distinction, Bourdieu analysait pour la première fois l'hégémonie du snobisme intellectuel, emblématique de l'ère du capitalisme industriel bourgeois, un ouvrage fondateur pour la sociologie de la culture. 40 ans plus tard, la séparation que Bourdieu opère entre culture dominante et culture populaire est-elle toujours pertinente ? Qu'est-ce que l'éclectisme culturel et comment se fabriquent désormais les goûts dans le contexte actuel de bouillonnement de la culture? Voilà les questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Il est 14h, passé de 1 minute sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons parler de la fabrique des préférences culturelles avec Hervé Glevarec, sociologue, directeur de recherche au CNRS, rattaché à l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales et auteur de « La culture à l'ère de la diversité », essai critique 30 ans après la distinction paru aux éditions de l'Aube. En fin d'émission, on retrouvera les nouvelles de l'écho présentées par Arjuna Andrade.
C'est l'idée qu'une société, c'est-à-dire les classes dominantes de cette société, se font à un certain moment de ce qui est beau. Évidemment, la première leçon qui se dégagerait d'une histoire des musées, c'est la relativité extraordinaire des choses qu'on a mises, selon les époques, dans les musées. La distinction, l'opposition entre le goût barbare et le goût cultivé, ou encore entre le vulgaire et le distingué, enfin qui en est la forme commune, cette opposition est d'un arbitraire formidable, à tel point qu'il n'y a pas de définition possible du vulgaire ou du distingué, autre que relationnelle.
Bonjour Hervé Glevarec.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous avez sans doute reconnu la voix de Pierre Bourdieu. Il était reçu par Jocelyn de Noblet en 1972 sur France Culture. Ce que nous dit Bourdieu, c'est que la distinction entre une culture considérée comme légitime et une autre qui ne le serait pas, cette distinction-là a été imposée par les classes dominantes.
Oui, et à la fois il dit que c'est les classes dominantes qui ont ce pouvoir de définir une culture légitime. Et à la fois, il ajoute quelque chose d'autre qui est presque contradictoire, c'est qu'il dit que c'est relatif, c'est-à-dire que elles ont élu un objet culturel, mais elles pourraient très bien élire un autre objet culturel. Et c'est le même argument qu'on trouve dans Les héritiers de la reproduction, c'est que ce que consacre l'école est fondé sur un arbitraire culturel. Voilà.
Qu'est-ce qu'une culture légitime chez Pierre Bourdieu?
Pour Pierre Bourdieu, la culture légitime, c'est celle qui s'impose comme la norme auquel les gens se mesurent, avec cette idée que les classes dominantes, les catégories supérieures, satisferaient à la légitimité culturelle, c'est-à-dire qu'à la fois elles seraient ce qu'il est bien de pratiquer, de connaître, d'aimer, et en plus elles auraient ces pratiques. Et à cela il ajoute le fait que les catégories moyennes et populaires, elles ne font que reconnaître cette légitimité culturelle, n'en ont pas la pratique et donc se sentent dominées et se sentent, comme il le dit, illégitimes, voire pour les catégories populaires, dans la situation du manque. Elles ignorent leur manque.
Alors, avant de voir peut-être les limites de ces théories de Pierre Bourdieu, comment est-ce qu'il parvient à ces conclusions et sur quelle méthodologie est-ce qu'il s'appuie, Hervé Glevarec?
Ah, alors là, vous mettez le doigt sur un point, sur un point sensible qui est la façon dont Bourdieu a construit son schéma. Je pense que ce sont des choses, ma foi, qui devraient... C'est une boîte noire, la distinction, pour parler de ce livre précisément, est un peu une boîte noire d'un point de vue méthodologique parce que ça mélange différentes sources. Ça mélange différentes enquêtes qui ont été faites dans les années 60-70 par l'INSEE, par la SOFRES, auxquelles s'ajoute l'enquête propre de Pierre Bourdieu qu'il a menée avec des collaborateurs, notamment Monique de Saint-Martin, qui est un un bout d'une enquête qui portait initialement sur la photographie. Ça fait un deuxième pan. Ensuite, Bourdieu construit ce qu'il appelle un espace social. Mais là, il ne le fait pas en s'appuyant sur les données statistiques. Il dit que c'est un schéma manuscrit. Donc, il y a une troisième source. Une quatrième source s'ajoute, c'est des photographies, mais qui ne sont pas des photographies prises par Bourdieu lui-même dans une enquête de terrain. Et puis, il y a aussi des entretiens. Donc, vous voyez, la distinction est extrêmement bigarrée. Et Bourdieu réussit à faire tenir tout cela. Il me semble que c'est une boîte noire que nous n'avons pas encore suffisamment ouverte. Notamment, comment est-ce que l'espace social qui est cette grande maison de poupées dans laquelle tous les Français sont et où ils sont ordonnés du haut vers le bas, du légitime à l'illégitime, des catégories dominantes aux catégories populaires et de la gauche à la droite, du capital culturel au capital économique. Voilà. Donc ça, il faut... N'oublions pas que c'est un schéma fait à la main et il n'y a pas d'analyse de correspondance statistique qui permette de l'asseoir. Donc c'est quand même une difficulté d'un point de vue méthodologique pour les sociologues.
Et c'est en tout cas cette théorie qu'on pourrait dire classique que vous remettez en question dans votre ouvrage « La culture à l'ère de la diversité » qui est paru en 2013. Alors pourquoi ? Quelles sont les limites de l'approche de Pierre Bourdieu selon vous ?
Alors, le modèle de la distinction, c'est comme ça que moi je l'appelle, le modèle de la distinction, au-delà de ces questions méthodologiques, c'est vrai que c'est un modèle qui s'est imposé comme un modèle de pensée pour les sociologues, qui a diffusé dans le monde entier et qui a un certain nombre de caractéristiques. Sa première caractéristique, c'est qu'il est holiste. Holiste, c'est le tout qui s'oppose aux parties. Holiste, ça veut dire que le tout prime sur les parties. Donc, il est holiste, ça veut dire que il est structuré par une légitimité qui s'impose à tous. Personne, aucun individu, aucun jeune de banlieue n'échappe à la maison de poupée. Donc tout le monde est mesuré à une légitimité et on peut caractériser cette légitimité avec un grand L, c'est-à-dire qu'il n'y en a qu'une, il n'y en a pas plusieurs. S'il y en avait plusieurs, il n'y aurait pas une seule légitimité et on serait dans un autre modèle sur lequel on reviendra plus loin.
Donc mais la dimension holiste, c'est la première chose
voilà,
que vous
c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est son, disons, son positionnalisme. On peut aussi là, on peut dire un autre mot qui est son déterminisme. C'est que Bourdieu asserte dans la distinction que les individus ont les goûts de leur position. C'est la thèse centrale de la distinction. On a les goûts de sa position. On croit qu'on a des goûts subjectifs qui nous sont propres parce qu'on aurait telle psychologie, telle personnalité, telle histoire, etc. Et en fait, on a les goûts de sa position. Et Bourdieu ajoute quelque chose, c'est que la position, elle est définie par deux critères principaux qui sont ce qu'il appelle le capital économique et le capital culturel. Le capital économique, c'est les ressources économiques que vous avez ou que vos parents avaient. Et puis le capital culturel, c'est, quand on cherche à le mesurer, à l'opérationnaliser, c'est le niveau de diplôme.
Alors justement, Hervé Glévarec, on va voir comment les choses ont évolué depuis les années 70. Peut-être que le fait d'associer, par exemple, un genre musical à une classe sociale est de moins en moins pertinent, et on le voit notamment avec l'exemple du jazz.
Oui, alors il me semble que le modèle de la légitimité, il souffre d'un certain nombre, disons, d'apories. La première aporie qui a été pointée par un certain nombre d'auteurs, c'est ce qu'on a appelé le légitimisme, c'est-à-dire qu'il regarde le monde depuis le haut, exclusivement depuis le haut. Et ça a pour effet deux choses. C'est que ça dote les catégories supérieures et diplômées auxquelles nous appartenons de pratiques qu'en réalité elles n'ont pas, ou qu'elles ont de manière très minoritaire. Une grande partie d'entre elles ne va jamais à l'opéra, n'écoute plus de musique classique, etc. Et puis, elles caractérisent les catégories populaires par le manque. Donc, elles sont privées d'un certain nombre de pratiques, et éventuellement, les pratiques qu'elles ont, la seule qualification qu'on peut avoir de ces pratiques, c'est d'être des pratiques illégitimes. Donc, elles n'ont pas de valeur au sens propre et plein.
Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur cet exemple du jazz, que l'on écoute Olivier Rouef, il est chercheur au CNRS et auteur de Jazz, les échelles du plaisir intermédiaire et culture lettrée en France au XXe siècle.
Le monde du jazz est très savant. Il y a beaucoup de discours très élaborés, très formalisés, qui donnent prise un peu à cette type d'analyse. Le jazz a très vite été constitué en France comme une sorte de ce qu'on appelle une culture libre, c'est-à-dire une culture à la fois lettrée, mais défini comme par opposition à la culture scolaire, à la culture classique. Dans le cas du jazz, l'intérêt pour les intermédiaires vient aussi du fait qu'ils sont plus visibles, parce que l'invention du jazz comme un genre artistique, en gros dans les années 30, une quinzaine d'années après la première réception de jazz band, est faite par des intermédiaires contre l'avis, en gros, des musiciens professionnels spécialisés. Donc ça rend du coup leur rôle très visible. C'est vraiment des intermédiaires, des critiques qui se font, des amateurs discophiles qui se font critiques, programmateurs, producteurs, qui inventent l'idée que le jazz serait un art, alors que les musiciens professionnels spécialisés dans le jazz band eux-mêmes trouvent que c'est pas vraiment un art, c'est une pratique plutôt d'artiste-artisan.
Alors, il y a eu une invention du jazz comme art, nous dit Olivier Rouef, qui nous dit aussi que c'est une conception qui n'est pas partagée par tous, y compris dans le monde du jazz.
Alors, moi, mon point de vue diverge de ce type d'analyse. C'est-à-dire que je ne crois pas beaucoup, en fait, à l'exclusivité d'un processus de légitimation ou d'artification. Je pense qu'on est beaucoup plus dans des processus de reconnaissance, de qualités qui en fait sont déjà là. C'est-à-dire le jazz a un certain nombre de qualités qui sont progressivement reconnues. Et le caractère de la reconnaissance n'a rien à voir avec le caractère de la légitimité. La légitimité, un petit peu comme le laissait entendre Olivier Rouef, est absolument arbitraire. Un certain nombre de gens disent que c'est de l'art, d'autres disent que ça n'est pas de l'art. On pourrait dire à peu près, on pourrait qualifier tout d'or ou d'argent à propos de n'importe quels objets.
Et pourquoi la reconnaissance ne serait-elle pas arbitraire?
Parce que la reconnaissance, elle est appuyée sur un principe moral et éthique qui est beaucoup plus solide, beaucoup plus argumenté, et qui consiste à dire que, de même qu'on ne dit pas que les femmes ont été légitimées, mais qu'elles ont été reconnues, on ne peut plus dire que le jazz ou le rap a été légitimé, mais qu'il est reconnu. Et donc, si demain il s'avérait qu'il y a une dégradation de leurs valeurs, on ne dirait pas des femmes qu'elles sont illégitimes, mais qu'elles sont ravalées, dégradées. On est dans un registre de la reconnaissance, qui est le droit de toutes les cultures à exister, appuyé sur des arguments qui sont des arguments esthétiques, qu'une grande majorité des Français, notamment des Français qui sont un minimum compétents, c'est-à-dire qui ont un petit peu entendu de jazz à la radio, etc., reconnaissent comme un genre, c'est-à-dire comme un art, si on veut. Voilà plutôt ma thèse.
On parlait de la différence qui peut exister entre la théorie bourdieusienne d'un côté et de l'autre les pratiques que l'on constate, que l'on observe dans la réalité. Et ce que les sociologues constatent de plus en plus, c'est que les plus diplômés se tournent de plus en plus justement vers des genres culturels qui n'appartiennent pas à la culture classique, avec les Varèques.
Oui, absolument. En fait, il y a deux choses ont été constatées. Alors on peut les dater, on peut les faire se succéder chronologiquement. Ce qu'on peut appeler d'abord l'éclectisme. Donc Richard Peterson, un sociologue américain, va dire quand je regarde les pratiques musicales, la musique sert souvent d'objet parce que c'est le champ, le domaine culturel le plus massivement partagé via les industries culturelles. Donc il dit, quand je regarde les pratiques musicales, je constate que l'élite, c'est son vocabulaire, l'élite se caractérise par le fait qu'elle est éclectique. Mais éclectique au sens de Richard Peterson, dans les années 80, ça veut dire quelqu'un qui est diplômé et qui ajoute à des goûts classiques, à savoir la musique classique, éventuellement le jazz, des goûts populaires. Donc il ajoute des choses qui sont apparues dans les années 60, le rock, le jazz, maintenant on dirait le rap, etc.
L'idée que l'ouverture à d'autres cultures serait l'apanage des classes supérieures.
Oui, si vous voulez, l'éclectisme pétersonien, c'est un éclectisme qui, tout simplement pour exister, pour avoir un minimum de sens, doit nécessairement ajouter à des goûts classiques des goûts populaires. C'est sa première caractéristique. Il faut noter que chez Richard Peterson, il y a une certaine ambiguïté quand on le lit, c'est que on ne sait pas bien si c'est un éclectisme réel, réellement mesuré, auquel il croit lui-même, Peterson, c'est-à-dire un éclectisme effectif des catégories diplômées, ou bien s'il est juste affiché. Il a des propos où il dit « c'est un éclectisme qui apparaît quand on est dans certaines situations et qu'il est bien de manifester qu'on connaît quelques titres de rock ou quelques séries, etc. »
Donc Il parle d'un omnivorisme.
Voilà, il parle d'un omnivorisme. Alors après, c'est le mot éclectisme qui est un peu plus beau dans la langue française, il est vrai, qui s'est répandu. Alors je disais qu'il y avait deux temps. Ça, c'est le premier temps pétersonien. Et à mon avis, le deuxième temps, c'est le temps où cet éclectisme qui mélange du classique et du populaire est littéralement effacée, remplacée par un éclectisme des catégories diplômées, mais qui se porte exclusivement sur les genres populaires. Donc si on regarde les plus jeunes générations maintenant, qu'est-ce qu'elles écoutent ? Elles écoutent beaucoup de genres, elles sont effectivement éclectiques, mais elles piochent dans des genres qu'on aurait appelés populaires, qu'on ne doit plus d'ailleurs appeler populaires, qu'on doit appeler, on en parlera peut-être tout à l'heure, de leur nom. Et leur nom, c'est un nom générique. Donc elles mélangent du jazz, du rap, du R&B. Mmh. C'est elles qui vont mobiliser les mots pour dire leur goût. Donc vous voyez, c'est un autre éclectisme qui est un éclectisme exclusivement populaire et qui renvoie le précédent éclectisme de Peterson plutôt au sein des catégories âgées, diplômées.
Alors, on a beaucoup dit, Hervé Glevarec, que le rap était désormais écouté par toutes les classes sociales et en particulier les classes supérieures. Mais pour Karim Hamou, sociologue et auteur d'une histoire du rap en France, le public du rap n'a finalement pas tant changé.
Si je reviens sur les classes sociales, ce qu'on observe dans l'enquête à la fin des années 2000, c'est que le rap a progressé dans toutes les classes sociales de la population, quel que soit le groupe social. Il y a plus d'hommes qui en écoutent, plus de femmes qui en écoutent, il y a plus de jeunes qui en écoutent, bref, ça progresse partout. Mais ça progresse pas partout aussi vite. Et donc ce qu'on remarque, c'est que le rap est encore plus populaire dans les classes populaires et que proportionnellement, finalement, les publics du rap sont plus populaires à la fin des années 2000 qu'à la fin des années 90. Donc il y a proportionnellement dans les publics du rap plus d'enfants d'ouvriers et d'employés à la fin des années 2000 qu'à la fin des années 90. Donc ça c'est quelque chose d'assez contre-intuitif parce qu'on a tendance toujours à imaginer une musique écoutée par les classes populaires qui se généraliserait vers les classes supérieures. C'est un processus qui est beaucoup plus compliqué que ça et en tout cas c'est pas du tout ce qu'on observe de 97 à 2008 à partir des statistiques du ministère de la Culture.
Voilà, si l'on en croit Karim Hamou, la distinction par classe sociale n'aurait donc pas disparu et l'exemple du rap le montrerait, Hervé Glevarec.
Alors Karim dit deux choses. Il dit à la fois c'est un genre qui reste populaire au sens où il est écouté par les catégories populaires. On peut lui concéder qu'effectivement le rap est écouté par un certain milieu social, mais comme le rock l'est, comme le jazz l'est, voilà, on a simplement des goûts qui sont fragmentés, c'est une chose de le dire. Il dit aussi que le rap s'est diffusé. Alors évidemment, il faut en faire quelque chose du fait que le rap se soit diffusé, qu'il soit aussi écouté, même si ça en fait pas le goût majoritaire, qu'il soit aussi écouté par les catégories diplômées. Parce que le modèle de la distinction ne prévoit pas qu'un genre populaire soit écouté par les catégories diplômées. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elles le font, ou bien vous les croyez pas et vous dites elles le font, mais en fait elles le font pas vraiment, donc elles l'aiment pas le rap, qu'elles l'écoutent, mais on sait pas pourquoi elles l'écoutent chez elles. Alors que personne les force, mais moi qui ai fait un entretien, elles m'ont dit qu'elles l'écoutaient, mais je les crois pas. Le fait est que si elles l'écoutent, on est bien obligé de les prendre au sérieux. Et donc ça veut dire qu'il faut probablement un peu bouger la théorie pour comprendre pourquoi un genre populaire, censé être populaire et illégitime, est écouté par des catégories diplômées.
Et vous alors, pour quelle raison?
Il y a une contradiction.
Bien sûr. Voilà, et alors, est-ce qu'on a des débuts de réponse, justement?
Ah ben, moi, je considère que dès l'instant qu'il y a ce que moi j'appelle une mise en genre, une tablature, c'est-à-dire que le domaine culturel, dorénavant, se structure par la reconnaissance des genres, que la valeur que les gens attribuent aux œuvres est une valeur qui se fait à l'intérieur du genre et non pas en toute universalité. Si vous demandez demain à quelqu'un « classez-moi Bach, Michael Jackson, Miles Davis, Django Reinhardt » en me disant quel est le plus grand, je parie que l'essentiel des gens vont répondre en premier « ça dépend ». Ça dépend de quoi ? Ça dépend du genre. Voilà, donc ils vont rapporter Michael Jackson, ils vont rapporter la grandeur de Michael Jackson au genre de la pop, au genre du rock, etc., etc. Donc ça suppose, vous voyez, quand même un quart de tour, pas une révolution, certainement pas une révolution. Ça consiste pas à dire la musique classique est en bas et c'est maintenant le rock qui est en haut. Non, un quart de tour structuré par une reconnaissance des genres et une incommensurabilité des genres. Évidemment, cette mise en genre du domaine culturel est une mise en genre historique et elle est liée à la densification du champ culturel.
Alors on va y revenir et on va voir aussi que cette distinction qu'opère Pierre Bourdieu entre les genres dominants, la culture dominante et la culture dite populaire peut se retrouver à l'intérieur même d'un genre, si on parle de la musique, à l'intérieur du rap ou à l'intérieur du rock. Mais avant cela, ce qu'il faut voir, c'est qu'on constate, et vous l'avez dit, une baisse de certaines pratiques comme la fréquentation de l'opéra, de la littérature dans les catégories dites supérieures. Ce que vous constatez, c'est que depuis les années 90, il y a un affaiblissement de la légitimité culturelle de ce qu'on appelle la haute culture. Hervé Glevarec.
Oui, mais je suis pas le premier à le dire. Jean-Claude Passeron le disait. Hein, le train de vie culturel des catégories supérieures s'évalue de moins en moins à leur train de vie de pratique artistique. Voilà.
C'est justement lié à ce tournant culturel depuis les années 60
oui, alors,
dont vous parlez.
Oui, c'est lié à différents processus, des processus qui font que sans doute ces dernières décennies, un certain contrôle social que peut-être Bourdieu a mesuré dans la distinction, s'est un petit peu levé et que les gens ont arrêté d'avoir des pratiques peut-être qu'ils surestimaient ou peut-être qu'ils ne leur donnaient pas tant de plaisir que ça. Ils ont découvert des plaisirs dans les pratiques populaires, dites populaires avec des guillemets et les guillemets qu'il faut maintenant. Ensuite, les catégories diplômées elles-mêmes se sont hétérogénéisées. Et puis, moi, j'ajoute quand même un facteur essentiel qui est que autant dans le modèle de la distinction, comme je le disais tout à l'heure, ce qui fait les goûts des individus, c'est leur position sociale, c'est-à-dire leur capital culturel et économique, qui est acquis par, et c'est le grand mot qu'on va sortir, qui est acquis par la socialisation, ou dans la famille pour les héritiers, ou à l'école, il me semble qu'il faut dorénavant ajouter à la socialisation un facteur de fréquentation, qui est la fréquentation des industries culturelles, la fréquentation des groupes de pairs, et c'est par ces intermédiaires-là, les industries culturelles, les groupes de pairs, que les gens nés comme moi dans les années 60 ont rencontré Michael Jackson. Ils ne l'ont pas rencontré dans leur famille, mais ils l'ont rencontré à la radio Énergie.
Ce que vous dites beaucoup dans votre livre, Hervé Glevarec, c'est notamment que vous critiquez les successeurs de Bourdieu qui constatent un changement des pratiques, changement dont on vient de parler, sans remettre en cause pour autant le modèle explicatif hérité de Bourdieu.
Oui, oui, absolument. Il y a une conservation du modèle pour des raisons, parce que c'est un modèle qui fondamentalement maintient l'idée de la classe sociale et l'idée que le goût est structuré par la classe sociale, que le goût dit la classe sociale et que la culture est un vecteur de la domination sociale, en l'occurrence une domination culturelle. Ce que je crois de moins en moins, je pense que le domaine culturel s'est autonomisé. Il s'est autonomisé pour partie de l'école et il s'est autonomisé pour partie du domaine de la domination sociale ou de la domination économique.
Désormais, on peut dire que les goûts deviennent plus importants que les positions sociales, et c'est ce que le sociologue Antoine Aignon explique lorsqu'il dit que cette diversification des pratiques et donc de la légitimité a été intériorisée par les individus.
Oui, les individus sont, comme peut-être il le dirait, sont devenus compétents, sont devenus réflexifs. Disons qu'il y a deux choses. Il y a cette idée que la position sociale, au sens du niveau de diplôme et du niveau économique, ne suffit pas en toute généralité à définir les goûts, mais que notamment il faut ajouter une variable d'âge. Ce que Bourdieu a fait un peu dans la distinction, mais qu'il n'a pas théorisé. Mais ce que ses successeurs ne font pas non plus. Même s'ils peuvent le dire, mais ils n'en font pas la théorie, ils n'en tirent pas les conséquences. Pourquoi ? Parce que si vous mettez en avant la variable de l'âge, vous avez l'impression que vous avez perdu les classes sociales. Voilà. Si vous voulez, pour le dire simplement, les pratiques culturelles, pour un grand nombre d'entre elles, sont structurées en tout premier lieu, parce que moi j'appelle le savoir, et pas le capital culturel, le savoir. Je reviens à savoir et j'arrête avec capital culturel qui finit par ne plus dire grand-chose. Voilà, les gens ont une compétence. Et c'est cette compétence qui explique aussi qu'ils ont les goûts qu'ils ont. Par exemple, qu'ils ont des goûts compliqués, qu'ils ont des goûts savants. Parce qu'ils ont acquis cette compétence qui au Savoie, qui au conservatoire, qui en regardant des films d'auteurs parce que dans sa génération on en regardait, etc. Donc il faut ajouter cette variable de l'âge, me semble-t-il. Voilà.
Et alors cette évolution des pratiques s'accompagne peut-être aussi d'une évolution des représentations. Dans le monde de la musique classique, certains refusent désormais cette appellation classique. C'est le cas du pianiste Philippe Cassard. On l'écoute.
Alors avant de définir ce qu'est la musique classique, je voudrais déjà dire que moi je suis très mal à l'aise par rapport à ce mot de classique. Parce que qu'est-ce que ça veut dire classique? Pour moi, quand je dis musique classique, je pense à une époque. La musique dite classique, c'est une musique qui est écrite en gros entre la toute fin du XVIIIe siècle, enfin la deuxième moitié du XVIIIe siècle, jusqu'à environ 1800-1805. Pour moi, c'est le style classique. Il n'y a pas de musique classique pour moi. Mais le problème, c'est que si on ne dit pas la musique classique, qu'est-ce qu'on dit? On disait, à l'époque de nos parents, et peut-être plus de nos grands-parents, la grande musique. Donc s'il y a une grande musique, ça veut dire qu'il y en a une moins grande, pour ne pas dire qu'il y en a une petite, ou une moyenne. Alors est-ce qu'il y a une musique moyenne? Est-ce qu'il y a une... Qu'est-ce que c'est la petite musique, à part la petite musique de nuit de Mozart, qui est de la grande musique?
Le terme classique, c'est un héritage de cette vision dénoncée par Pierre Bourdieu, selon laquelle la musique classique est considérée comme supérieure à d'autres genres musicaux.
Oui, à la fois, et en même temps, c'est aussi une catégorie générique. Si vous voulez, là pour moi, on a typiquement affaire à un spécialiste. Donc un spécialiste qui trouve que la chaussure de la musique classique est une chaussure un peu étroite pour ses goûts et son savoir à lui. Et assez légitimement, en tant que spécialiste pointu du genre, il dit qu'est-ce que ça veut dire que cette musique classique, il faudrait peut-être raffiner dedans, faire du baroque, faire du 16e, faire du 18e, etc. Évidemment, il a bien raison. Je pense qu'il faut avoir à l'esprit deux choses. Que là, on a affaire à un spécialiste et que les spécialistes, quand ils plongent dans un genre, eh ben, ils raffinent en sous-genre. Et c'est le principe même du savoir dans un genre et de l'amateurisme dans un genre. Et puis, il y a l'autre niveau qui est le niveau ordinaire, à partir duquel les individus, les Français adultes en 2018, s'entendent pour parler de leur goût, pour donner leur valeur, et à ce moment-là, massivement, ils vont s'appuyer sur la musique classique. Et pourquoi est-ce que c'est ce terme qui va être retenu dans les questionnaires d'enquête pratique culturelle des Français? Parce qu'on fait l'hypothèse que c'est ce genre qui est partagé par les individus. Et il suffit de faire un petit peu d'enquête de terrain pour voir que si on demande aux gens quel style de musique écoutez-vous, un, ils vont passer massivement par des genres pour dire leur goût, parce que le goût pour se dire, pour se partager, pour se dire à soi-même et pour être partagé avec un autre, à ce niveau de généralité qui n'est pas un niveau de généralité où je parle à mon copain qui est amateur comme moi de rock et qui va raffiner, à ce niveau de généralité, un, ils vont passer par des genres et ils vont mobiliser les genres que sont le jazz, donc le mot jazz, rock, musique classique. Donc c'est là que musique classique va apparaître.
Shining like diamonds in a rocky world. Rocky world. Our skin like bronze and our hair like cashmere. As we march to the rhythm on the palace floor. Ooh, chandeliers inside the pyramids. Trim.
Cleopatra, but you love Africa. Jewel, what good is a jewel that ain't still precious? How could you run off on me? How could you run off on us? You feel like God inside that gold. I found you late.
On écoute Pyramids de Frank Ocean, issu de son album Channel Orange, sorti en 2012. Un album qui mêle justement hip-hop, R&B et électro, qui a été encensé par la critique. Nous sommes toujours avec Hervé Glévarec, sociologue, directeur de recherche au CNRS. Et nous parlons de la fabrique des goûts culturels sur France Culture, dans Entendez-vous l'écho. Frank Ocean, c'est peut-être un bon exemple, Hervé Glévarec, de cette distinction qui est désormais opérée, selon vous, à l'intérieur d'un même genre musical, entre une musique de qualité... une autre jugée commerciale ?
Je ne sais pas si c'est exactement ça. Ça témoigne de plusieurs choses. D'abord, ça témoigne que cet artiste, s'il est effectivement qualifié de rappeur, et qu'il est écouté et encensé par les gens des Un Rock, ça veut donc bien dire que ces gens écoutent du rap. Alors, de deux choses, l'une, c'est du rap ou c'est pas du rap. Ensuite, est-ce que ça veut dire que c'est un rap légitime et que les catégories populaires, quand elles écoutent du rap, l'entièreté de leur rap serait un rap illégitime? En fait, je ne crois pas. Je crois fondamentalement qu'il y a un bon goût populaire. Alors quelque chose qui n'est pas prévu par la théorie de la distinction, il ne peut pas y avoir un bon goût populaire. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible dans la distinction que les classes populaires aient un goût et que ce goût soit bon. Et c'est-à-dire que les catégories diplômées se disent, tiens, elles ont un bon goût populaire.
Or, je pense n'est pas possible parce que ça ne serait pas accepté par les classes diplômées.
Parce que la théorie, oui, la théorie ne le dit. La théorie ne le dit pas.
C'est l'idée de ne pas réussir à l'imposer.
Oui, la théorie ne le dit pas et la théorie prétendant dire ce que les catégories sociales pensent, et notamment les catégories supérieures, elle pense que les catégories supérieures ne le pensent pas. Et que c'est pas possible, et que c'est pas vrai. Or, je pense que les catégories populaires qui écoutent Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, elles ont un bon goût. Pourquoi ? Parce que, pour ne citer que ces trois artistes sont probablement au panthéon du genre rap, et qu'ils resteront dans l'histoire. On ne peut pas préjuger. Voilà, donc qu'est-ce que vous faites à partir du moment où vous avez des catégories populaires qui ont un bon goût? Il faut bien leur faire une place. La tablature leur fait une place, parce que la tablature dit, dans
donc
le genre
la tablature
rap,
qui est ce modèle
voilà,
que
ce
vous
modèle
avez
que
créé.
Je défends, voilà. C'est cette mise en genre du domaine culturel. La tablature défend cette idée qu'à l'intérieur des genres, voire des sous-genres, pertinents pour les différents groupes sociaux, il y a de la hiérarchie, il y a du grand et du petit, mais que ce grand n'est pas nécessairement le grand qui est porté par les catégories diplômées, et a fortiori par la même catégorie diplômée, ou par une catégorie diplômée qui aurait cette particularité d'être absolument homogène, c'est-à-dire qu'elle rassemblerait tous les diplômés, hommes, femmes, de 70 ans à 35 ans ou à 25.
Ce qui n'est pas le cas.
Ce qui n'est pas le cas.
Alors, on va revenir à la musique dans un instant, mais d'abord, on peut dire que cet éclectisme culturel dont on a parlé s'illustre peut-être parfaitement dans l'exemple des séries contemporaines qui, en France, ont véritablement changé de statut en 20 ans, Hervé Glévarec.
Oui, absolument. Elles ont été, disons, reconnues. Elles ont été valorisées. Et leurs amateurs, je parle de leurs amateurs ordinaires. Hein, je ne parle pas de la presse spécialisée et des gens qui ont investi ce domaine culturel, mais leurs amateurs spécialisés qui ont commencé à les regarder à la fin des années 90. Grâce à Internet, en contournant l'institution télévisée française, les ont qualifiées de séries de qualité. Donc, elles sont des catégories qui ont trouvé à l'intérieur de ces séries un certain nombre de traits permettant de les mettre au panthéon de ce genre, tout en stabilisant ce genre. Et alors, il faut ajouter, pour aller dans la continuité, avoir un peu de fil rouge avec ce que je disais précédemment, ces catégories qui ont valorisé ce genre série et ces séries de qualité venant notamment des États-Unis sont des catégories pour partie diplômés, mais jeunes. Ça n'est certainement pas les personnes de 65 ans et plus qui, dans les années 90-95, se sont engagées pour les séries américaines. Hein. C'était pas elles qui étaient le fer de lance. Elles avaient d'autres goûts culturels plus classiques.
Ce que vous dites, c'est que la passion autour des séries peut rappeler finalement l'engouement pour le cinéma dans les années 1950. C'est donc avec le temps qu'un genre acquiert sa légitimité, Hervé Glevarec ?
Oui, c'est avec le temps. Est-ce qu'il a nécessairement besoin de temps ? Je ne sais pas. Le processus de la reconnaissance est un processus quand même qui caractérise nos sociétés occidentales, démocratiques. Donc il peut assez vite s'imposer à tout nouveau genre, dès l'instant qu'un nouveau genre apparaît et qu'il est assez vite reconnu, comme le roman graphique, le manga, etc. Voilà, bien sûr qu'on peut décrire des processus, mais le processus de reconnaissance, n'ayant pas cette dimension d'arbitraire de la légitimité et de la légitimation, puisqu'il est beaucoup plus assis, disons, sur un réalisme des propriétés des œuvres, la question du temps n'est pas centrale dans l'argumentation.
Cette reconnaissance du genre de la série s'illustre en tout cas à travers le fait que de plus en plus de cinéastes reconnus se lancent dans la création de séries comme Jane Campion, Palme d'or du Festival de Cannes en 1993 pour La Leçon de Piano, qui a réalisé la série Top of the Lake. La deuxième saison est sortie l'an dernier.
When you get to the edge of the universe, what's so scary?
A lost little girl with a secret growing inside.
Who are you? Are you dead or alive?
We're a small town. We all know no one can hide anything. Someone here knows something.
Sometimes a case comes along that fits so tightly that you can't let go.
I want to know the bad thing you were going to tell me.
Adam and Eve, Garden of Eden, coming of the serpent.
Give up! There's no way out! Everything you think you are, you're not.
Voilà, c'était la bande-annonce de la saison 2 de Top of the Lake. Il y a de nombreux exemples, Hervé Glevarec, de cinéastes de renom ou encore d'écrivains qui s'intéressent désormais à ce genre de la série qui était autrefois méprisé.
Oui, d'ailleurs, c'est plutôt les gens de lettres qui se sont d'abord intéressés à la question sérielle. Des écrivains, Martin Winkler, des américanistes, Barbara Villet, voilà, plutôt des gens qui ont un rapport notamment plus aisé que nous, Français, jusqu'à peu avec la langue anglaise. Pour autant, je pense pas qu'il faille faire de l'esthétique sérielle la fille de l'esthétique cinématographique. Au contraire, je pense que s'il s'est passé quelque chose ces 20-30 dernières années, c'est bien cette rupture quand même. Alors qu'en France, on ne veut pas vraiment voir, hein, parce qu'on est le pays de la cinéphilie, on est le pays des auteurs. Donc les cahiers du cinéma ne sont pas le lieu spécialement où on va faire les cahiers de la série, hein, à côté des cahiers du cinéma. Donc on va essayer de maintenir tout ça dans le même giron, qui est le giron du cinéma. Mais il y a quand même une rupture esthétique assez majeure qui s'est faite avec la série, qui tient au fait quand même que la série a une particularité qui est son temps long, et que à cette particularité, les Américains ont réussi à ajouter quelque chose qui est ce que moi j'appelle des effets de réel, c'est-à-dire une immixtion très très forte, très particulière, de ce type de fiction au long cours, avec la conjoncture, avec les vies humaines. Voilà, ce que le cinéma qui, anticipe beaucoup son contenu des mois et des mois à l'avance, donc ne peut pas réagir à l'actualité, et n'a jamais fait, parce que le cinéma, en dehors des phénomènes de séries Rambo 1, Rambo 2, plutôt marginal, n'a pas développé comme son principe fondamental.
Et puis la série, peut-être au moins aux États-Unis, vient aussi redonner une certaine place à la télévision comme support par rapport au cinéma, et cela même si on consomme des séries plutôt hors des programmes télévisés, Hervé Glevarec ?
Oui, là les choses sont un peu paradoxales. Le facteur générationnel, est très important, c'est-à-dire que plus on va vers les jeunes générations, c'est quelque chose qu'on voit là avec mon camarade Clément Combe, avec qui je travaille sur les séries télé. On voit bien que plus on va vers les jeunes générations, plus leur consommation des séries se fait sur un écran d'ordinateur portable, en partie de manière délinéarisée. Pour autant, un grand aspect de la pratique sérielle continue de se faire en suivant le calendrier de la télévision, ou le calendrier de la télévision en replay ou en VOD. Voilà. Donc la télévision, quoi qu'on en pense, demeure centrale.
Mais la place des séries à la télévision américaine n'a aucune commune mesure avec la place qu'elles ont à la télévision en France, par exemple, Hervé Guévarec.
Oui, historiquement, et ça tient aussi à la taille du public américain, qui fait que ce public, avec un public notamment qui pouvait payer pour des chaînes payantes avec des séries dites de qualité, c'est ce qui a permis cette éclosion de nouvelles séries. Et on oppose souvent à cela un marché plus restreint de la France et puis la visée française de séries familiales. Donc ces séries ayant une visée familiale, elles sont nécessairement obligées d'être plus consensuelles, moins transgressives, etc. Mais la télévision française et la série française a subi de plein fouet cette émergence des séries américaines, et elle s'est profondément quand même transformée, renouvelée. Même ne serait-ce Plus belle la vie sur M6, en s'accrochant au calendrier social, en parlant de thématiques absolument contemporaines, etc.
Ou plus récemment, donc, 10% voilà, sur France 2.
Oui, voilà. Donc on a un effet massif quand même de cette série. De cette série américaine sur la série française.
Vous parliez de réalisme psychologique dans les séries, voire d'hyper-réalisme. Ce qui est nouveau peut-être, c'est qu'avec ces séries, on assume désormais le plaisir et la légèreté de la consommation culturelle.
Oui. Moi, alors c'est pour ça que j'ai opposé ça, ce que j'ai appelé ce régime du plaisir ici et maintenant, au régime ascétique, qui est un régime du plaisir ascétique qui est très bien décrit. Peut-être de façon caricaturale, faudrait que les historiens nous le disent, mais qui est très bien décrit par Pierre Bourdieu dans La Distinction. Pierre Bourdieu nous dit la distinction est réservée aux catégories supérieures, notamment diplômées, notamment aux professeurs, et le régime culturel dans lequel ils sont, c'est quand même un régime ascétique, c'est-à-dire que il faut en baver, il faut aller voir Beckett, c'est un peu, hein, mais demain ça rapportera, demain on comprendra, etc. Moi, ayant enquêté auprès d'un public de jeunes adultes diplômés, amateurs de séries télé dans les années fin des années 90, début 2000, ce sont des gens qui revendiquent d'avoir un plaisir situé, léger, ce soir. Ils attendent leur épisode ce soir en rentrant du travail avec énormément de plaisir, et ils vont se mettre dans les conditions d'avoir ce plaisir. Donc on voit bien qu'on a un régime de la jouissance esthétique et culturelle qui est tout à fait nouveau et que nous n'avons pas dans le modèle de La Distinction, qui est plutôt un modèle de la peine, de la souffrance et des trucs un peu chiants, quoi.
Et comment on explique justement cette émergence d'une volonté de rechercher cette immédiateté du plaisir culturel ?
Alors, écoutez, les causes sont multiples. D'abord, ça tient aux objets culturels eux-mêmes, à la culture populaire. Les séries sont pas les premières. La musique, elle fait bouger des corps. Il y a des millions de gens qui ont dansé sur les Beatles et les Stones. Ça leur a visiblement fait des effets physiques. Ils en ont tiré des plaisirs incommensurables. Ils continuent d'écouter. Ces titres continuent d'être diffusés au-delà de leur émergence première. Donc, ce régime du plaisir culturel corporel est un régime qui est ancien. Mais le fait est qu'il caractérise maintenant aussi les catégories diplômées.
Et ce que vous dites aussi, Hervé Guévarec, pour finir sur cette thématique des séries, c'est qu'il y aurait une discordance entre la légitimité sociale des séries et leur légitimité culturelle.
Oui, avant j'utilisais le mot légitimité culturelle, et puis depuis je l'ai remplacé par reconnaissance. Mais pour moi ça veut dire la même chose, ça veut dire qu'elles ont des qualités qui sont reconnues par les experts, qui ont des arguments à faire valoir pour dire que un certain nombre d'entre elles, visiblement, sont haut dans la hiérarchie des séries, plus que d'autres, que des saisons valent mieux que d'autres, etc. Voilà, des amateurs et des spécialistes pour ce qui est de la figure de celui qui argumente. Et la légitimité sociale, c'est celle de Bourdieu, c'est celle qui vous renvoie à l'arbitraire. Or, je ne crois pas que la légitimité des séries soit fondée sur un arbitraire social.
Et alors, on parlait tout à l'heure de cette notion d'éclectisme culturel. Pour vous, il faut quand même le noter, il s'agit en réalité d'un éclectisme limité, puisque le mépris de genre n'a pas disparu. Certaines productions culturelles continuent à être regardées de haut, Hervé Glevarec.
Oui, l'idée d'éclectisme limité, ça consiste simplement à dire que il n'y a pas de dominant absolu sur le plan culturel. Admettons qu'il y ait des dominants culturels. Alors à ce moment-là, il y en a plusieurs, de plusieurs sortes. Un des critères qui va les distinguer, c'est l'âge. On les trouve sans doute dans les catégories diplômées. Mais en tout cas, ça vous fait plus une domination culturelle universelle. Ça vous fait plus une grande légitimité avec un grand L. Ça vous fait des petites légitimités avec des petits L. Je suis pas sûr que quand on a plein de petites légitimités avec des petits L, on a gagné grand-chose. Est-ce qu'il vaut mieux pas avoir à ce moment-là une autre cartographie, celle que soutient la tablature, c'est-à-dire une cartographie où le domaine culturel a été mis en genre. Ce qui articule les genres peut effectivement relever de la distinction au sens de Bourdieu. Et il suffit de regarder certains sous-groupes les plus âgés, issus des catégories supérieures, pour voir que ceux-ci continuent d'écouter de la musique classique et d'exprimer explicitement un mépris pour le rap. Mais on peut se déplacer aussi vers les catégories populaires âgées qui, elles, méprisent une musique jeune. Voilà, donc les catégories supérieures n'ont pas le monopole du mépris, hein, contrairement à ce qu'on peut penser. Et puis vous avez un ensemble de catégories intermédiaires qui, elles, manifestent de l'indifférence, de la tolérance, sous le registre de « je ne connais pas, j'ai un petit peu entendu, c'est pas ma tasse de thé, je n'écouterai pas ça ». Mais je ne méprise pas. Et pourquoi est-ce que je ne méprise pas? Parce que déjà, si je méprisais, ça voudrait dire que comme moi, mes parents ont méprisé ma culture juvénile, moi, je rejouerais ça. Non, je ne connais pas le rap, ça n'est pas mon truc, mais je sais qu'il y a des grands dans le rap.
Et puis peut-être que vous appelez le cultisme, cette passion pour un film ou une musique qui est jugée culte, c'est une manière de désamorcer le mépris que peut susciter ce genre de produit culturel?
Oui, si on veut, oui, si on veut, il faut inscrire le cultisme, je pense, plus dans un amateurisme généralisé ou presque généralisé, ou disons des sociétés où les individus sont devenus des goûteurs culturels, où la culture a pris une place importante et où chacun d'entre nous est susceptible d'avoir un goût, voire des inappétences, notamment dans le champ de la musique, dans le champ de la lecture, de la littérature, dans le champ du cinéma, dans le champ des séries. Voilà. Donc la culture est devenue importante, les gens sont devenus compétents, plus ou moins experts. Et cette culture, à ce moment-là, c'est l'idée d'un tournant culturel, est-ce que cette culture n'est pas aussi devenue un élément qu'ils ont à leur disposition pour dire qui ils sont? Voilà. Et là, en quelque sorte, la boucle est bouclée. C'est-à-dire que le goût serait moins le produit de la position que un élément qui contribue à faire ce que vous êtes, à dire ce que vous êtes aux autres, quand vous dites « moi je suis rock, moi je suis ceci, moi j'ai tout appris par la littérature ». Voilà, quelqu'un qui vous dit « moi j'ai tout appris par la littérature », qu'est-ce qu'il est en train de vous dire ?
Pour résumer, peut-être qu'on peut dire que la violence symbolique dont parlait Bourdieu s'exerce désormais à l'encontre de la culture jugée mainstream et non plus à l'encontre de la culture populaire. C'est la rareté, l'exceptionnalité, c'est à travers ces critères-là que s'impose une forme de domination, Hervé Glevarec.
Je ne sais pas, parce que comme vous voyez, dans mon modèle, je ne reconduis pas une domination unilatérale, une échelle unique de la domination ou de la légitimité.
Encore une fois, ça peut être une forme de domination.
Donc, oui,
dans un genre donné.
J'ai plutôt une représentation de la société comme de la société culturelle, du moins, comme une société plutôt fragmentée, où pour rendre compte des goûts des individus, il vaut mieux fractionner les choses. On a plutôt affaire à des univers de goûts qui peuvent se faire les uns par rapport aux autres, mais qui se font pas les uns par rapport à la même légitimité, et où je pense qu'il faut ajouter à la question de la reconnaissance, qui est un principe éthique, qui fait que si vous amenez quelqu'un qui dans la rue va vous dire « moi j'aime pas le métal, moi j'aime pas le rap, c'est nul, c'est de la merde », et que vous le mettez dans ce studio-là, il va avoir des difficultés à vous le dire, parce qu'il va être sous ce régime de la reconnaissance. Sinon, il va recevoir un tombereau d'emails en rentrant chez lui, qui vont lui dire « Mais de quel droit tu dis que c'est nul ? Tu peux ne pas aimer, mais dire que c'est nul, tu n'as pas le droit. » Voilà. Mmh. Ça, c'est la première chose. Je pense que les goûts sont structurés par cette reconnaissance. Et puis, ils sont structurés par, je pense, des normes de goût, qui sont pas des légitimités, mais qui sont des normes de goût propres à des univers. Moi, j'ai affaire à la norme de goût qui est celle de ma génération, des gens peut-être de mon sexe, etc. Vous, vous avez affaire à la norme de groupe qui est celle de votre génération, de votre sexe, de votre niveau d'études. Voilà. Et donc, ça nous fait déjà des normes de groupe, hein. Un peu comme un certain nombre de sociologues ont pu pointer des normes de groupe à propos des lycéens, des collégiens, en montrant qu'ils étaient structurés par des goûts très spécifiques.
Vous avez notamment travaillé sur les pratiques culturelles propres aux adolescents avec les Varek, et vous dites que les loisirs sont chez les adolescents peut-être plus que chez les autres classes d'âge, justement un moyen d'affirmer son identité.
Oui, alors c'est vrai que dans le cas de la radio, c'est assez flagrant. Alors, ça l'était assez quand j'ai enquêté, et depuis les années 60, depuis que les radios musicales jeunes existent, la musique a acquis de plus en plus une dimension identitaire. Elle sert aux collégiens ou lycéens à dire qui ils sont. La fragmentation et la différenciation des radios elles-mêmes sert de support pour dire ses goûts. Voilà, donc la radio était cette espèce d'intercesseur et de miroir du goût quand je l'ai étudié. Ceci étant, les choses changent. On sait par exemple que le jeu vidéo a pris une place centrale dans les goûts. Donc, voyez, il peut y avoir d'autres traits culturels qui contribuent à construire l'identité à côté de ce que représentait la musique ou la radio.
Mais on le voit, en tout cas, l'âge et la génération à laquelle on appartient sont déterminants dans les pratiques culturelles. Et vous l'avez dit, cette dimension a peut-être été partiellement occultée par Pierre Bourdieu. Donc il faudrait peut-être effectivement croiser à la fois la classe d'âge et la classe sociale pour avoir une approche fine des préférences culturelles et constater par exemple que les genres musicaux ont été conservés par leur public devenu adulte.
Oui, ça c'est un fait assez massif, c'est-à-dire que les gens vieillissent avec leur goût passé. Et donc, comment le goût musical est structuré ? Il est massivement structuré par la génération. Le goût musical en France est un goût générationnel. C'est un goût éclectique, mais c'est un goût générationnel et on a les goûts de sa génération en tout premier lieu.
Pour conclure, avec les Varek, le modèle proposé par Pierre Bourdieu dans la distinction est encore partiellement opérant, selon vous, même si la responsabilité de faire évoluer ce modèle revient désormais aux sociologues contemporains.
Écoutez, si vous trouvez une domination absolue, un genre qui domine tous les autres, un dominant absolu, une légitimité absolue, alors le modèle de la distinction de Bourdieu est encore valide.
Vous en êtes quand même, vous êtes beaucoup appuyé sur ce modèle pour vos travaux.
Ah oui, c'est un sparring partner, absolument, pour construire quelque chose d'autre.
Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de revenir aujourd'hui sur le rôle de la culture dans le changement politique et social.
Mais oui, vaste programme. Alors que la France bruisse de revendications en matière économique et sociale, ou encore démocratique, il était intéressant de revenir sur le rôle de l'art dans l'accompagnement d'un mouvement qui entend redonner la parole aux oubliés du politique. À la fin des années 60, le philosophe Herbert Marcuse assure, je cite, que l'art joue un rôle très important dans les mouvements sociaux et que s'il n'agit jamais directement, il permet néanmoins de développer la conscience, l'imagination et la sensibilité au-delà et à l'encontre des formes établies. L'art a donc pour Marcuse un rôle d'éveil et d'irrigation de la pensée critique collective, une première étape fondamentale dans l'élaboration d'espaces de subversion pour penser les alternatives au système politique, économique ou culturel dominant.
On pense notamment au rôle de la musique dans la création et l'accompagnement d'une contre-culture.
Oui, tout à fait. Jadis, cette volonté contestataire semblait liée au développement d'une scène artistique culturelle alternative. On pense évidemment à la puissance des scènes punk, rock ou rap qui portaient en elles une véritable critique des valeurs bourgeoises et d'un modèle capitaliste dont elles étaient les laissées pour compte. Au milieu des années 70, l'émergence de la scène punk se produit ainsi dans une Angleterre en proie à des conflits sociaux larvés traversant l'ensemble du corps social. Dans cet environnement, la musique des Clash et des Sex Pistols survient comme un coup de tonnerre, un cri de révolte qui devient résolument politique au cours des années 80. Le fameux slogan punk « Do it yourself » sonne autant comme une revendication d'autonomie que comme une volonté de résistance au processus de marchandisation de la société.
Un mouvement punk qui se fond pourtant peu à peu dans la culture dominante.
Oui, comme toujours, la sous-culture se voit phagocytée, intégrée à la culture dominante dans un processus de banalisation et de standardisation bien connu. Les mots d'ordre des punks sont peu à peu transformés en slogans creux, vidés de leur pouvoir subversif par la toute-puissance du marketing et de la publicité. Aujourd'hui, à l'exception de certains groupes de rap qui dénoncent les injustices et les dominations économiques, raciales ou politiques, difficile de percevoir où se produit la contestation du modèle actuel. En réalité, les artistes dits « engagés » se font rares et la contestation politique se limite à des prises de position sur des sujets précis, la dénonciation d'une injustice ou la défense d'une catégorie particulière. Alors que l'on pouvait percevoir dans les mouvements punk des années 70 une forme de radicalité dans les discours et les revendications, les artistes actuels ne se mobilisent plus que ponctuellement sur des sujets particuliers qui leur tiennent à cœur, une évolution qui est loin, bien entendu, de ne toucher que le monde artistique et culturel.
En réalité, cette dilution du pouvoir de la culture serait le fruit d'un changement plus profond de nos modes de mobilisation et d'identification.
Oui, car on assiste aujourd'hui à une atomisation des identités et des luttes qui en découlent. Après avoir fantasmé Internet et les réseaux sociaux comme des espaces de débat et d'élaboration politique renouvelée, on se demande aujourd'hui s'ils n'ont pas plutôt conduit en réalité à une dilution des revendications politiques. Dilution dans la multiplication des canaux d'expression, mais aussi dans la multiplicité des revendications elles-mêmes. Les artistes, comme les citoyens, se mobilisent en fonction de leurs intérêts, de leurs sensibilités et de leurs affinités. La lutte se pense aujourd'hui comme un exercice perpétuel de conquête de nouveaux droits, plutôt que comme une perspective de dépassement collectif. Et de cela aussi, la musique se fait l'écho.
Street Fighter Mass de Kamasi Washington. Merci beaucoup Hervé Glevarek de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je rappelle votre ouvrage « La culture à l'ère de la diversité, essai critique 30 ans après la distinction » paru aux éditions de l'Aube. On se retrouve demain pour une émission consacrée à l'exception culturelle française et à ses effets sur les pratiques. En attendant, n'hésitez pas à écouter ou réécouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.